Moi, je suis pas féministe, mais...
La femme est l'avenir de l'homme. Tu y crois, toi ?
Moi, je comprends rien au féminisme.
Mais c'est pas encore acquis l'égalité femmes-hommes ?
Mais qu'est-ce qu'elles veulent à la fin ?
Eh oui, tant qu'il y aura des inégalités, on en parlera. Mais rassurez-vous, vos oreilles vont adorer ça.
Il n'y a pas que le 8 mars.
J'ai un problème de chasse d'eau. Elle fuit. Je suis locataire de mon appartement. J'appelle mon agence immobilière. Ino de France, bonjour. Je lui explique mon problème. Réponse de mon interlocutrice. Eh bien, faites appel à quelqu'un qui s'y connaît ou à un homme. Faites appel à quelqu'un qui s'y connaît ou à un homme. Donc, si je résume bien, un homme qui ne s'y connaît absolument rien en plomberie sera toujours plus compétent que moi, une femme. J'aurais aimé lui parler de Catherine Vidal. Catherine Vidal, c'est une neurobiologiste qui explique qu'il n'y a pas un cerveau de femme et un cerveau d'homme. Ah bon, les femmes ne viennent pas de Vénus et les hommes ne viennent pas de Mars ? Eh bien non, les hommes ne sont pas nés avec le gène du bricolage. Les femmes ne sont pas non plus nées avec une casserole en guise de troisième main. Catherine Vidal a expliqué que les cerveaux sont en fait très plastiques, c'est-à-dire que toute personne peut apprendre tout au long de la vie et que ce sont les apprentissages, donc l'acquis, qui nous donnent des compétences. Mais je ne lui ai rien dit de tout ça, mon interlocutrice de l'agence immobilière. Je lui ai juste dit « Très bien, merci, au revoir ».
C'est José, je dirais, les stéréotypes dans la cuvette. Allez, on prend un petit peu de hauteur. Il n'y a pas que le 8 mars, en ce début décembre. D'abord, le portrait de Carole, militante féministe, mais pas que. Après, les féministes, c'est pas drôle ? Eh bien, on en parle avec Chloé Martin, comédienne. Droit devant, la revue des actus. Et pour finir, Culturels, parce que le féminisme, c'est aussi la chanson, les bouquins, les BD, les expos, la culture, quoi.
Le portrait.
Carole Gerbeau est membre du collectif féministe de Bourg-en-Bresse depuis ses débuts. C'est une récidiviste. Elle n'en est pas à sa première expérience de militante. Elle a fondé, entre autres, l'association Mouvement d'Elle en 1992. Étonnant pour une femme qui pensait que l'égalité femmes-hommes était déjà largement acquise. Carole, alors, comment ça a commencé ?
D'abord, la question ne m'est pas venue quand j'étais très jeune au lycée. Ensuite, ce qui m'est venu, c'est la question de la bataille antiraciste. Quand j'étais très jeune, donc je me suis retrouvée dans des collectifs antiracistes divers sur Lyon. Et en fait, ce qui m'a amenée au féminisme et à la lutte féministe, c'est d'être entrée dans une organisation politique qui s'appelait la Ligue communiste révolutionnaire, parce que eux avaient, cette organisation était féministe et elle avait une organisation à l'intérieur du parti politique, il y avait une organisation féministe. Et franchement, j'étais pas pour. Quand je les ai connus, j'étais comme toutes les personnes qui sont pas anti-féministes, mais qui... Moi, j'avais 30 ans quand je les ai rencontrés, 28 ans, et entre mes 18 ans et mes 28 ans, je faisais partie de ces gens qui avaient pensé que j'avais beaucoup de chance en tant que femme, rien ne m'avait été imposé, je pouvais aller travailler, j'étais pas obligée de me marier, j'étais pas obligée de dépendre de quelqu'un, je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais avoir des enfants, pas avoir d'enfants, enfin bon, voilà, et j'avais l'impression que tout était acquis et que s'il restait quelques bricoles, c'était pas aussi important que ça. Et c'est en rentrant à la Ligue communiste révolutionnaire que j'ai rencontré des gens féministes, très féministes, et qui m'ont convaincue, puisque c'est quelques années après que j'ai monté Mouvement d'Elle, enfin que j'ai monté avec quelques copines qui les avaient rencontrées à peu près en même temps que moi, mais qui, elles, n'étaient pas du tout dans ce parti-là.
Est-ce que le féminisme a eu un impact sur ta vie personnelle ?
Non. Non, le fait que je m'engage dans cette lutte-là n'a pas eu d'impact parce que, encore une fois, alors je suis peut-être pas un bon exemple parce que cette façon de militer à la fois sur des questions spécifiques et à la fois sur une question de lutte de classe fait que le militantisme lui-même a un impact sur la vie personnelle. Alors pas le fait d'avoir été dans une lutte féministe, mais c'est vrai. Alors par contre, c'est marrant cette question parce que ça me rappelle moi quand j'étais très très jeune, donc comme je viens de le dire, j'étais pas impliquée dans cette affaire et je vivais par contre avec des gens qui avaient tous à peu près 10 ans de plus que moi et qui donc mes amis avaient toutes été militantes dans les années 70, dans le mouvement féministe de l'époque. Et j'avais constaté quand même que sur elle, ça avait eu un impact. Et ça m'avait d'ailleurs assez frappée, parce que je m'étais rendu compte que pour aller au bout de leurs idées, elles avaient cheminé vers quelque chose qui quelquefois les isolait. Parce que je trouve, pour le coup, que les féministes se font moquer quand même. Ou en tout cas, on pense qu'elles ne sont pas faites pour telle et telle vie sociale, ou qu'elles font moins de concessions, ou des choses comme ça. Et moi, je me souviens, j'avais eu cette impression en les rencontrant. Moi, quand je suis devenue militante féministe, ça n'a pas eu d'impact, mais ce qui a eu un impact sur ma vie privée, moi, c'est le militantisme en règle générale. C'est-à-dire que ça m'a quand même fait changer complètement d'horizon et de vision sur les choses. C'est-à-dire, moi, je constate que quand on est militant, pour essayer de faire respecter les droits de tous ou de les faire avancer et de les faire naître même pour certaines causes, eh bien, on s'oublie beaucoup. Et c'est pas plus mal. On a moins mal à la tête, par exemple.
Le collectif est non mixte. Vous êtes contre les hommes ?
Ah non ! On n'est pas contre les hommes. Par contre, un collectif non mixte, moi, je trouve, encore une fois, au risque d'être très ringarde, je pense que c'est très important. Et c'est vrai que c'est perçu comme tout de suite étant contre les hommes. C'est-à-dire un collectif non mixte, bien évidemment, il n'y a pas d'hommes. Et tout de suite, ils vont dire, bah, nous, on pourrait amener des choses, alors on ne comprend pas. Alors, moi, par exemple, j'ai un bon exemple, c'est le mouvement qu'on avait fondé en 92, qui s'appelait le mouvement d'Elle, qui était non mixte dans son organisation interne, mais qui a toujours, toujours mis en place des manifestations, quelles qu'elles soient, localement à Bourg-en-Bresse, en lien avec plein d'autres organisations qui, elles, évidemment, étaient mixtes. Et ça, c'était très important, parce qu'on avait le choix total des sujets qu'on voulait aborder, de la façon dont on voulait les mettre en lumière, on avait aussi le choix de avec qui on voulait travailler, et puis après on proposait aux autres organisations, et là évidemment on essayait qu'un maximum de monde soit présent dans ces manifestations-là, parce que le droit des femmes, plus il avancera, plus il fera avancer le droit de tout le monde. Donc c'est en ça qu'on n'est absolument pas contre les hommes, mais simplement, il y a quand même une organisation sociale machiste. Bon, là-dessus, moi, je pense qu'on n'a pas dépassé complètement. Je ne rentre pas dans les détails. Bien sûr qu'il y a des choses qui ont avancé, pas avancé, ça serait un grand débat. Mais en tout cas, on est dans une société machiste. On a quand même été obligé d'imposer la parité pour les institutions, ce qui est quand même énorme, d'avoir été obligé de l'imposer pour qu'elle ait lieu. Donc, je pense que les femmes, entre elles, ont moins de pression quand elles s'organisent entre elles. Et à partir de ce noyau-là, elles diffusent partout. Et je répète, le droit des femmes fera avancer le droit de tous.
Alors, tu en as parlé justement du fait que les féministes soient moquées ou voire agressées verbalement. Est-ce que tu as un exemple de phrase assassine qu'on a pu te dire ou qu'on a pu dire à une de tes camarades féministes ?
Moi, l'exemple que j'ai le plus... C'est pas forcément des phrases assassines, c'est franchement des gens qui nous disent, qui répondent « Mais qu'est-ce que tu fous là, quoi ? À quoi ça sert ? Ça sert à rien. » C'est ringard, c'est plus la peine. On est d'une génération, moi j'ai eu 18 ans en 76, donc c'est juste avant que le libéralisme creuse son chemin, sans qu'on s'en aperçoive d'ailleurs, c'est un petit peu la fin des années 70. Et à cette époque-là, moi je suis déjà dans un milieu militant, donc je suis relativement protégée de ces phrases assassines, mais quand même, dès qu'on sort de ces endroits-là, de ces milieux-là, c'est pas forcément des... Enfin, c'est vraiment de nous renvoyer qu'on sert plus à rien, que c'est gagné, qu'est-ce qu'il faut encore que les hommes donnent pour que ça s'arrête. Voilà, c'est souvent ça. C'est souvent que, en gros, qu'est-ce qu'on vous a fait, quoi, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse encore pour que vous arrêtiez de. Voilà. Donc, moi, je trouve que profondément, plus que les phrases assassines, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas compris par le monde masculin. Pas compris. Cette histoire d'égalité des droits, quand on parle des femmes, il n'est pas compris. Par exemple, dans un milieu militant, il va être plus compris quand on parle d'égalité français immigré.
Mais alors pourquoi il n'est pas compris ?
Parce que je crois que ça remet... Il y avait quelque chose qui était très intéressant qu'on travaillait à l'époque dans la Ligue, c'était cette histoire de séduction. puisque dans la vie, les gens vivent aussi de séduction, vivent aussi de rapports humains, rapports sexuels, rapports affectifs, que principalement chez les personnes hétérosexuelles, et bien c'est souvent entre hommes et femmes, et que du coup, je pense que un des éléments qui bloque beaucoup quand même, c'est que ça remet en cause profondément la personne en tant que personne. C'est-à-dire qu'il est, il dit, bah alors les hommes se disent, oui, ils ont l'impression qu'on va les dépouiller de tout parce qu'on milite pour nos droits, alors qu'en fait, c'est une question d'égalité de droits.
Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Il faut continuer, parce que finalement, c'est pas si grave non plus. Enfin, je veux dire, ils ont le droit de ne pas y arriver à comprendre, mais c'est pas ça qui doit nous arrêter. Parce que sur le fond, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes fera avancer toutes les égalités, et les droits des femmes feront avancer les droits de tout le monde. Ça, c'est quand même assez facile à comprendre. Si on prend ça dans le monde du travail, c'est exactement... C'est compréhensible, c'est-à-dire que si un jour les femmes sont mieux respectées dans les horaires de travail, dans la façon de pouvoir concilier vie privée, vie familiale, dans les salaires, de toute façon, ça tirera les choses vers le haut. Pour tous les autres domaines, la vie privée, le reste, c'est la même chose. C'est difficile à comprendre pour le monde masculin, c'est difficile à comprendre, y compris pour d'autres femmes, hein, puisqu'il y a des femmes qui nous trouvent ringardes, je le répète. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut continuer. Voilà. Une des grandes luttes médiatiques a été la lutte pour le droit à l'avortement et à la contraception. Et aujourd'hui, il ne faut pas la lâcher. Alors, et en plus, c'est intéressant parce que c'est souvent là-dessus que les gens disent « Vous êtes ringarde, puisqu'on a tout eu, on a le droit, maintenant il est remboursé. Maintenant, on peut prendre la pilule, on peut se faire avorter librement. » D'accord ? Mais sans se rendre compte que, d'une part... il y a eu une grande mobilisation dans les années 70, y compris du corps médical, pour ceux qui en avaient envie. Cette génération-là est en train de partir, elle part, elle est à la retraite. On s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les remplacent dans les centres d'IVG. Et puis la principale raison aussi de continuer de lutter pour l'avortement, c'est la casse des services publics. Parce qu'aujourd'hui, le libéralisme a fait s'écrouler les services publics, dont l'hôpital évidemment, qui est un des plus souffrants de ces services publics. Et à l'intérieur de l'hôpital, les centres d'IVG. Donc ça, c'est une lutte importante. Une autre lutte, c'est la vie. Alors, on a beaucoup avancé dans la vie privée aussi concernant le fait d'avoir des enfants, puisque les femmes peuvent avoir des enfants quand elles veulent, grâce à cette liberté de disposer de son corps. Et elle peut aussi avoir des enfants toute seule, elle peut aussi en avoir avec une autre femme, elle peut en avoir avec un homme, bien sûr. Et la vie privée est très difficile à organiser par rapport aux gardes d'enfants. Et ça, c'est un service public qui n'existe pas, quasiment. Les crèches sont en très petit nombre, il n'y a pas d'organisation souple, il n'y a pas assez de crèches. Et ça, c'est aussi une lutte importante à mener pour que les femmes aient le droit à la fois d'avoir une vie de famille et une vie professionnelle. Mais il y a aussi la sexualité qui, elle, avait fait pas mal. Quelques pas quand même dans les années 70, même un peu plus, et aujourd'hui c'est moins en lumière. Et alors ça revient par une autre fenêtre, c'est-à-dire que aujourd'hui les gouvernements successifs essayent de limiter le fait d'avoir des enfants de façon différente, parce que justement ça permettrait à des couples homosexuels d'avoir une famille telle qu'une autre, mais simplement en tant qu'homosexuel. Moi, je pense que toutes ces questions-là, concernant les transsexuels, concernant l'homosexualité aussi, toutes ces questions-là sont... Il faut les garder en... Non seulement il faut les maintenir en tant que lutte, mais il faut les remettre un peu en lumière, je trouve.
Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi, par pure paresse, par pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable, mon cher ami. Je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur. Tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable, c'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûr de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité.
Lassa chante la culpabilité, souvent ressentie par les femmes, mais c'est aussi la prise de conscience et le début de l'autonomie. C'est en tout cas ce qu'apprécie Carole après cette confession. On continue notre discussion.
Le grand mouvement dont on a parlé de toutes ces années 60-70, finalement a fait quand même acquérir pas mal de droits. Et je crois que la société telle qu'elle est n'a pas forcément envie de tous les maintenir. Elle n'a pas forcément envie de les élargir. Ça arrange quand même, si cette société est organisée de cette manière-là, c'est pas pour rien. Et donc ça l'arrange sûrement d'avoir une partie d'elle-même considérée comme inférieure. Ça divise, c'est pratique. Ça peut mettre en place des divisions qui peuvent aboutir à des manipulations assez pratiques. Et du coup, ils n'ont pas trop envie de nous voir continuer à obtenir des droits. Je parle de ça maintenant parce que tout à l'heure, j'ai parlé plutôt de la remise en cause un petit peu personnelle de l'homme. Mais je pense aussi qu'il y a une grosse forme organisée et sociale du patriarcat.
Justement, tu as pas mal parlé de ton militantisme qui se fait dans des associations diverses. Donc j'imagine que tu crois en la convergence des luttes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Ah oui, alors là, c'est une question intéressante pour moi parce que je crois qu'à la convergence des luttes. Et là, pour le coup, je suis un peu... Alors, je ne devrais pas être pessimiste, mais là, politiquement, je le suis parce que je trouve qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que je trouve qu'on monte un collectif féministe et on a du mal, tout en le montant, et bien sûr, qu'on l'a dit au début de cette interview que c'est difficile, mais on a du mal à le relier à d'autres luttes, à la lutte antiraciste, par exemple, qui aujourd'hui prend beaucoup de temps, parce que la lutte antiraciste aujourd'hui est principalement tournée sur l'accueil des migrants qu'on fait dans les pays européens, et particulièrement en France. Et donc, elle est centrée là-dessus, et je trouve qu'il y a peu de convergence entre les mouvements féministes et ces mouvements de lutte pour l'accueil des migrants. De la même manière qu'il y a peu de convergence de lutte concernant aujourd'hui... la perte de repères pour tout le monde, de repères professionnels, l'augmentation du chômage, le fait que tout ce qui va se passer autour de la loi travail, tout ce qui s'organise autour de ce qui s'est organisé par exemple l'année dernière contre les lois travail du précédent gouvernement et ce qui va s'organiser cette année contre les ordonnances de Macron, tout ça, je trouve qu'il y a peu de convergence et que, à mon avis, il n'y a que dans la convergence des luttes que la force dont on a besoin, nous les féministes, parce que puisqu'on parle de nous, pour avancer, elle sera démultipliée. Voilà. Parce que c'est aussi en allant voir les autres, c'est aussi en écoutant ce que mettent en place d'autres luttes qu'on s'enrichit. Moi j'ai quand même 59 ans et ça fait 30 ans que je milite et je milite pour le droit des femmes et je milite aussi contre le racisme et je milite aussi contre le libéralisme et le capitalisme. Alors évidemment ce sont toutes des causes qui finalement sont d'une manière ou d'une autre assez minoritaires dans la société dans laquelle on vit et bien sûr on a des fois l'impression et on a souvent l'impression que ce qu'on pose comme acte ou ce qu'on déclare comme parole est une goutte d'eau dans la mer. Et si on commence à regarder ça, eh bien, on ne fait plus rien. Donc moi, efficace ou pas, je pense que je le vois à l'envers. C'est-à-dire que je me dis, si on se tait, c'est fini.
En fait, il ne faut rien laisser passer. Même pour une histoire de chasse d'eau.
Eh oui, c'est ça. Et promis, la prochaine fois, je ne laisserai rien passer. « S'il y a bien une femme qui ne se tait pas, c'est Chloé Martin.
Qui vient de dire le rire est le propre de l'homme, c'est pour ça que vous n'avez pas d'humour, madame.
C'est bien connu, les femmes n'ont pas d'humour et les féministes encore moins. Allez, avouez, on vous a déjà dit, le problème avec les féministes, c'est qu'elles n'ont pas le sens de l'humour. Eh bien, Chloé Martin est une femme et elle nous fait bien rire. Dans son spectacle La Part Égale, elle nous parle d'égalité entre les femmes et les hommes et elle nous fait rire. Mais serait-ce alors possible de véhiculer des idées féministes par l'humour ? Pire, l'humour serait-il une arme féministe ? Est-ce que c'est toujours possible d'en rire ? C'est avec ces questions en tête que j'ai rencontré Chloé Martin après son spectacle La Part Égale, qui était programmé au Vox en octobre dernier. Donc c'est elle qui a écrit et qui joue ce spectacle, qui interprète Justine. Justine, c'est une jeune femme qui... Oh, et puis non, je vous laisse écouter Chloé Martin.
Athéna ! Le chat ! Et pourquoi je dis le chat ? Mais non, mais j'ai toujours eu que des femelles. Et je dis le chat. Ouais, je dis j'ai un chat. Bah non, j'ai une chatte. J'ai une chatte. J'en ai même deux. Non mais pourquoi on a peur de dire cette phrase, j'ai une chatte? Pourquoi? Pourquoi on n'assume pas le j'ai une chatte comme on assumerait je suis une femme? Bonjour, bienvenue dans mon appart, alors n'aie pas peur, j'ai une chatte. Bon, elle est très gentille, elle a son caractère, mais elle est très gentille. J'espère que t'es pas allergique à le chat. Ayons aussi les ovaires de dire, sans anticiper ce qu'on va penser et sans imaginer ce que ça pourrait sous-entendre, j'ai une chatte. Bonjour, bienvenue dans mon appart, alors n'aie pas peur, je suis une femme! Qu'est-ce qui m'a prise?
Ce spectacle, c'est l'histoire de Justine, une femme qui se pose plein de questions, qui est en train de déménager. Et il lui reste plus que le dernier carton à finir avant de partir et surtout de retrouver son chat et de le mettre dans la boîte. Et du coup, en fait, ce temps d'attente pour retrouver son chat, qui est une chatte, mais est-ce qu'on ose dire le mot ou pas ? Et en tout cas, ce temps d'attente fait qu'elle se retrouve à faire l'état des lieux de sa société au lieu de faire l'état des lieux de son appartement.
Faire un état des lieux de notre société, mais alors n'était-ce pas un peu risqué d'écrire un spectacle drôle sur l'égalité entre les femmes et les hommes ?
Alors j'étais effectivement attendue au tournant, c'est-à-dire que quand je parlais que je faisais un spectacle sur la question de l'égalité des sexes, voilà, on me disait attention, ça peut être casse-gueule comme sujet, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites, souvent c'est cliché. Et moi je me suis dit non, justement, je veux déconstruire les clichés, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse c'est de voir comment notre inconscient collectif est bloqué sur des clichés et de déconstruire ça, parce que ça ne m'intéresse pas de dire les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, parce que je ne crois pas à ça. On est des êtres humains avant tout, et voilà, c'est des constructions autres.
Au cas où vous ne l'auriez pas encore deviné, Chloé Martin est bien engagée en faveur des droits des femmes, et pas qu'à l'occasion du 8 mars, La Part Égale, c'est le fruit d'une réelle réflexion féministe.
Déjà, c'est le constat que je fais, le fait d'être née dans un corps de femme ou assignée femme, comme on le dit plus précisément dans les mouvements féministes, justement. De voir la différence, le distinguo qu'il y a de comportement, le fait que tu sois une fille ou un garçon dans la société. Donc moi, les premières notes du spectacle, ça date de quand j'étais étudiante à Poitiers, donc en fac, à spectacle et au conservatoire de théâtre de Poitiers. Et c'est déjà ce constat-là, ouais, qu'il y a des différences qui existaient de comportement de la part des autres. Voilà, et donc toute cette colère, à un moment donné, j'ai réussi à la transformer en humour, quoi. Enfin, en tout cas, ouais, réussir à dire mes colères d'une manière où on pouvait en rire, même s'il y a du fond derrière, quoi. C'est pas un rire gratuit, c'est vraiment, il y a une lame de fond en dessous, qui est puissante, et c'est ça qui est chouette avec ce spectacle, c'est que les gens ont vraiment un côté, voilà, divertissement où on se marre, et en même temps, pardon, paf, il y a une phrase qui percute, qui fait ah ouais, je l'avais pas vu comme ça, ah ouais, mais ça, d'accord, voilà. Et d'ailleurs, le personnage s'appelle Justine, et c'était à la fois la justice, ça peut rendre la justice, il y avait ça derrière, et être juste dans les mots, et c'est souvent quelque chose que le public me renvoie, c'est que les mots sont justes, et effectivement, en écriture, On me l'a redit l'autre jour, j'ai une écriture ciselée, c'est-à-dire je pèse vraiment mes mots. Donc j'essaie d'avoir les mots les plus justes pour rendre voilà, la situation la plus juste.
Une fille se salit si elle couche avec différents garçons? Non mais alors ça, c'est le fantasme du sperme resté à l'intérieur. L'idée de plonger dans le sperme de l'autre aurait marqué son territoire, non, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse, ça blesse l'orgueil gris et c'est le bordel. Mais non, c'est pas le bordel. Ben c'est pas ça être une pute. Et hop, on met la capote. Non mais déjà, c'est ça. Non mais si les mecs avaient l'initiative de mettre un préservatif à chaque fois, ben c'est eux qui baigneraient dans leur jus et la fille, elle serait propre. Et hop, un coup de ménage.
Et hop, un coup de ménage, c'est certain, dans la part égale, l'humour permet de dégommer les stéréotypes. Et en plus, ça permet de dépasser certains tabous et d'aborder des sujets hyper délicats. Chloé Martin n'en laisse aucun de côté, que ce soit la sexualité, les menstruations, l'anatomie féminine.
Est-ce que tu sais au moins pourquoi tu as la voix qui mue? Tu sais pas ça? Mais parce que les testicules, quand ça descend dans les bourses, ça tire sur les cordes vocales.
C'est clair que ça nous en bouche un coin. Voilà un cours d'anatomie féminine par Chloé Martin, ou plutôt sa caricature de la prof de bio. C'est très drôle, hein, on rigole bien en studio. Et en plus, ça permet de parler du clitoris, encore tellement méconnu. Avec Chloé Martin, on peut rire de tout et elle ne s'est pas vraiment posé de limite pendant l'écriture, enfin presque.
Je sais que le texte, je l'ai fait lire pendant que je le travaillais. Mon premier lecteur, c'était un copain homme. Qui écrit aussi pas mal d'humour noir, plus sur la politique. Et oui, je l'ai fait lire à plusieurs amis mecs pour avoir leur point de vue, de voir s'ils ne se sentaient pas agressés. En fait, j'avais... De parler de patriarcat et tout ça, c'est vrai que ça remet en question les hommes, mais c'est les hommes au sens large, parce qu'il y a plein d'hommes, moi j'ai plein d'hommes dans mon entourage qui sont féministes. Qui sont dans une prise de conscience d'égalité, qui voient la domination en place, enfin voilà, qui déconstruisent ça. Donc c'était surtout faire en sorte que les hommes ne se sentent pas agressés. Voilà. Parce que c'est ça qui est délicat, de parler d'une culture, d'un sexe dominant. Voilà. Donc c'était là-dessus en fait la limite, de voir. J'avais pas du tout envie d'être dans la provoque, comme tu peux avoir des fois. C'est rare, mais des spectacles un peu revanchards ou qui vont dire « c'est la faute de ». C'est plus complexe que ça.
Et le fait en même temps. Mais papa, tu crois pas encore à ça? Que nous, les femmes, on aurait ce formidable don de la nature de pouvoir faire deux choses en même temps. Et là, ma mère ajoute, si, si, c'est vrai, Justine, je l'ai lu dans un livre. Les anatomistes ont observé que le corps calleux, c'est-à-dire le réseau de fibres qui relie les deux hémisphères dans le cerveau humain, était plus large chez la femme que chez l'homme. Ce qui expliquerait que la femme mobilise plus facilement ses deux hémisphères et donc pourrait faire deux choses en même temps. Et là, mon père conclut, bah, tu vois, c'est prouvé scientifiquement. J'ai lu le livre en question, ma mère me l'a offert à Noël. Pourquoi les hommes mentent et pourquoi les femmes ne savent pas lire une carte routière? J'ai vérifié. L'étude, elle existe, c'est une étude américaine qui a été réalisée sur au moins 20 cerveaux qui avaient été conservés dans le formol. Et cette étude date de 1982. Mais la presse féminine en parle encore. C'est comme si c'était rien passé depuis 1982. Ah mais non, mais la science n'a fait aucun progrès. Non mais l'IRM, ça n'existe pas. Les femmes viennent de Vénus, les hommes de Mars. Rien n'a évolué depuis 1982 et surtout pas les Américains. Bon.
En fait, la secrétaire de mon agence immobilière, c'était la maman de Justine. N'en déplaise à certains ou certaines, les féministes ont de l'humour, et c'est vrai qu'il en faut de l'humour pour tourner en dérision les attaques et moqueries contre notre militantisme, et aussi pour savoir rire de soi.
Et concernant l'humour des féministes, en fait, les féministes ont beaucoup d'humour. C'est nécessaire pour assumer ce mot et vivre dans notre société, il vaut mieux de l'humour.
Féminisme non masculin. Tranquille. Hein. Doctrine qui préconise l'égalité entre hommes et femmes, mouvement qui milite dans ce sens. Citation de Benoît de Groulx, le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours. Je répète, le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours. Machisme. Idéologie et comportement fondés sur l'idée que l'homme domine socialement la femme et qu'il faut en tout faire primer de supposées vertus viriles, me dites donc. On a toujours peur de l'extrémiste féministe d'une part, et d'autre part, on tempère le machisme qui est extrême dès sa définition. Je suis complètement fêlée. Pourquoi le féminisme fait peur? C'est le mot qui fait peur? Il y a le mot femme dedans? Alors les hommes se sentent pas représentés? Oui, mais dans ces cas-là, moi, en tant que femme, qu'est-ce que je dois penser des droits de l'homme? Bah oui, c'est sous-entendu que les femmes y sont incluses. Alors un homme peut très bien se sentir féministe. Les droits de l'homme. Mais alors, pourquoi on a une journée de la femme?
Est-ce que Chloé Martin fait preuve d'autant d'humour dans son quotidien et dans son militantisme? En parcourant des blogs, je me suis rendu compte que des féministes utilisent des blagues sexistes comme une stratégie. Réaction de Chloé Martin.
Moi, généralement, les blagues sexistes, ça me fait pas rire. Comme les blagues racistes ou tout ça, les blagues sur les blondes. En fait, je réagis tout de suite. Voilà, je le déconstruis au moment où je l'entends. Ouais, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a, même sur des sites, tout ça que je vois, il y a quand même... Ouais, pas mal de féministes qui utilisent l'humour pour déconstruire. Moi, en tout cas, dans mon expérience, ce que j'ai pu voir, c'est que ouais, les moments quand je suis vraiment voilà, en colère, ça fige, il n'y a pas de discussion possible avec l'autre. Donc des fois, c'est utiliser l'humour, ça peut être ouais, rentrer dans la pédagogie. Après, tout dépend comment on situe l'humour. Si c'est vraiment que, voilà, que de l'ironie trash... C'est ce que je fais aussi des fois dans le spectacle, c'est de, voilà, de dénoncer des trucs vraiment forts d'un coup. Quoi. C'est toujours pareil, soit c'est une ironie qui va en provocation, qui va tellement loin que ça choque l'autre et du coup dire ben oui, le propos sexiste, c'est ça en fait ce que ça veut dire. Donc ça peut amener à déconstruire si vraiment c'est emmené loin, mais il faut vraiment l'accompagner. Si c'est juste dit gratuitement, ben, ça fait comme le reste, c'est pas utile quoi.
Voilà qui est dit, vous pouvez retrouver toutes les infos concernant les spectacles de Chloé Martin sur la page Facebook de la Dame de Compagnie ou sur le site internet du même nom. Allez, juste pour le plaisir, on termine ce dossier sur le féminisme et l'humour par un extrait du spectacle La part égale de Chloé Martin et encore merci à elle.
Le combat de la femme moderne, ce n'est pas d'améliorer les conditions de l'avortement, c'est d'avoir un corps jeune et parfait, d'avoir la volonté ferme et la cuisse aussi. Car ces douloureux sacrifices mènent à la victoire de l'épanouissement personnel. L'estime de soi ainsi raffermie vous donnera le pouvoir de la séduction. Mais tant pis pour vous si vous oubliez votre...
table de nuit. On ne naît pas femme, on le devient.
Merci Simone. Vous êtes toujours à l'écoute de Y'a pas que lui Mars sur Radio B.
Droit devant, sur la toile, dans les journaux, chez la coiffeuse ou à Carrefour, on en a entendu parler.
Tour de France de l'égalité. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors non, ce ne sont pas des militantes qui vont parcourir la France à vélo pour prêcher la bonne parole. En fait, ce sont des ateliers organisés localement et coordonnés par les délégués régionales aux droits des femmes. L'idée, c'est de recueillir la parole de certaines citoyennes et citoyens sur les inégalités entre les femmes et les hommes, que ce soit au travail, dans les loisirs, la santé, mais aussi sur les violences. Dans l'Ain, Pascal Guillet, qui est notre délégué aux droits des femmes, coordonne les différentes actions. Il y a entre autres des ateliers de parole et un cahier de doléances à destination des pouvoirs publics devrait être rédigé. On va suivre l'évolution de ce projet de très près, encore une fois, pour tout savoir sur ce tour de l'égalité. Donc rendez-vous sur le site www.égalité-femmes-hommes.gouv.fr, rubrique Tour de l'égalité.
Ah, c'est bien, la parole des femmes monte à Paris. Lors de la première émission, on vous a dit qu'on suivrait de près les activités de Marlène Schiappa. Eh bien, ça n'a pas été vraiment difficile, vu l'actualité. Bousculade sur les réseaux sociaux depuis 2 mois. Tous les milieux sont touchés. Les témoignages de violence et de harcèlement viennent de toutes parts. Ça déballe, mais pas que. Ça interroge, ça se remet en question. Du coup, la secrétaire d'État, Marlène Schiappa, est invitée sur les ondes nationales le 25 novembre. Ben, c'était justement la journée internationale pour l'élimination contre les violences faites aux femmes. Et le chef d'État, Macron, fait de ce sujet une grande cause du quinquennat. Avec en plus une minute de silence à la mémoire des femmes mortes des coups de leur conjoint, le oui, grand jeu. Ouais, c'était c'est vraiment.
Ouais. Et il a fait un gros discours aussi, il me semble.
Une heure de voilà, discours, oui. Ouais. Mmh, ouais, mmh. Ouais. Par contre, moins visible, le réseau MAGE, premier réseau de recherche en France centré sur l'étude des inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde du travail, vient de se voir supprimer ses subventions. Moi, je ne comprends pas tout. Hein.
C'est sûr qu'on peut se poser un peu des questions.
On y reviendra.
N'est-ce pas merveilleux ?
Fin octobre, le collectif féministe parisien fait paraître un article sur un drôle de site. Le site Rich Me Beautiful, excusez mon accent, propose aux étudiantes de devenir des sugar babies afin, je cite le site, d'améliorer le style de vie en rencontrant un sugar daddy. Après la Belgique, c'est en France que le site propose aux étudiantes et aux étudiants de rencontrer des hommes plus âgés pour entretenir des relations tarifées. On est bien là dans une proposition de prostitution adressée à des jeunes qui n'ont pas la possibilité financière de faire des études. Cette pub banalise le fait de vendre son corps pour faire des études dans des meilleures conditions. C'est absolument inacceptable. Faut-il rappeler que toute forme de proxénétisme est illégale et punie par la loi ? Cette publicité doit être retirée. En tout cas, c'est la campagne qui est lancée sur le site du collectif de Paris. Elles et ils sont nombreux à militer pour les droits des femmes à travers leur art. Chaque mois, un peu de culture féministe, parce qu'un peu de culture, ça fait jamais de mal.
Du côté du Zoom à Bourg-en-Bresse, Rose et Bleu, c'est le titre de la pièce. Martha, journaliste engagée dans la lutte pour la liberté des femmes, habite Paris. Elle est sur le point de partir au Guatemala pour faire un reportage. Et avant son départ, elle rend visite à son frère Fernando. Lui habite dans une banlieue résidentielle de Madrid. Le frère et la sœur ne se sont pas revus depuis la mort de leur père. Ils vont évoquer leur enfance, leurs souvenirs, marqués par la domination du père et la soumission de leur mère. Donc rendez-vous au Zoom le 16 décembre à 20h30 pour ce spectacle. Et en résonance, le comité du 9 décembre 1905 accueille au Zoom Laurence Marchand-Taillade, présidente de Force Laïque, sur le thème « Laïcité et émancipation des femmes ». Une conférence débat, donc le 14 décembre à 19h. L'entrée est libre. Nous, on sera sur place pour vous faire prochainement un petit compte-rendu des débats. Et toi, Joël, tu as été à Lyon, je crois.
Oui, moi, à 2 pas de la gare de Perrache, en me baladant, j'ai vu une expo sur Lyon pendant la Première Guerre mondiale. Je vous avoue que j'ai regardé principalement les sujets qui parlaient des femmes dans cette exposition qui est très bien faite. Alors on les voit sur tous les fronts. Elles sont mobilisées dans les usines, mais malgré ce qui est souvent dit, ce n'est pas la guerre qui a mis les femmes au travail, elles y étaient déjà depuis longtemps.
C'est ça, oui, c'est vrai.
Ouais, elles étaient depuis longtemps.
C'est le mythe de la guerre qui a fait accéder les femmes au travail.
Ouais, là, on nous dit qu'en 1906, elles représentaient déjà plus de 39% de la main-d'œuvre, ce qui est quand même important et on n'a pas toujours ça en mémoire.
Ouais.
Alors autrement, on les pousse à aller au front. Alors une pub de l'époque, par exemple, française. La patrie réclame des volontaires pour des services multiples de la défense nationale française. En conséquence, avez-vous toutes fait tout ce que vous pouviez? Enrôlez-vous. Si vous ne pouvez pas vous faire enrôler, autre chose, faites rêver les pioupiou. Vous pouvez devenir marraine de guerre. Alors là, on vous dit, toutes veulent avoir 100 filleuls, aucune ne voudrait être 100 filleuls. Bonjour le jeu de mots, hein. Voilà. Mes femmes, votre tâche première, vous ne devez pas l'oublier, faites des enfants. Là, sur les affiches, on voit la mère au sein lourd, entourée de marmailles. Au passage, la première journée des mères et des familles nombreuses, c'est là, à Lyon. C'est né en 1918 avec un concours à la clé. Alors, premier prix, Madame Durand arrive en tête avec 12 enfants. Elle reçoit une prime de 500 francs. Bon courage, madame.
C'est un peu ridicule, 500 francs pour 12 enfants.
Ouais, on se demande comment ça a été utilisé. Enfin bon. En tout cas, plein d'autres sujets sont développés, illustrés. Ça vous dit un petit coup de TER jusqu'au 23 décembre prochain au Centre des Archives de Lyon. C'est pas mal.
Très bien.
Notre émission touche à sa fin. Vous venez d'écouter Y'a pas que l'U-Mars, une émission proposée par le collectif féministe du Bourg et animée par Joëlle et Alicia. Parce qu'en une journée, on ne peut pas célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes vers l'égalité. Parce que 24 heures, c'est trop peu pour aborder l'égalité dans le travail, le droit de vote pour les femmes dans le monde, l'utilisation de l'image des femmes pour vendre du shampoing, une cuisinière ou une voiture. Rendez-vous le lundi 8 janvier pour notre prochaine émission, parce qu'on sait très bien que vous ne serez pas là pour nous écouter le premier.
Mais vraiment, pour les accros à Radio B, pour cette soirée du premier, on essaye de vous préparer une émission spéciale chansons féminines.
On écoutera ça. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Que vos vœux soient dirigés vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Ne l'oubliez pas, même la nuit du 31. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur www.radio-b.fr. Restez à l'écoute de Radio B, à suivre à 20h Ping Pong. Retrouvez Captain et sa musique électro-hip-hop. Très bonne soirée sur Radio B.